Maurice Renard, L'heure des fantômes. Il n'est pas douteux qu'à certaines heures, les esprits se tournent avec une étrange obstination vers le secteur ténébreux du fantastique. Une attraction de pôle magnétique le ramène sans cesse, quoi qu'il en ait, dans le sens du Nord plein de mystère et d'effroi. C'est là un phénomène qui se produit surtout lorsque plusieurs personnes, pas trop nombreuses, se trouvent réunies dans des conditions de lieu et de temps favorables à cet état mental singulier et puéril, où se mêlent tous les pas de désir, d'appétit. La volupté de côtoyer l'inconnu, de frissonner à propos de sujets qui, d'ordinaire, nous semblent des enfantillages, ces sujets, pourquoi prennent-ils tout à coup un aspect différent, à la faveur de quelle conversation, de quelle ambiance, de quel secret besoin deviennent-ils quelque chose attirant, qui fascine, qui appelle, qui séduit et pourtant inquiète, qu'une huitaine de convives causent après dîner, oh, n'oublions pas les femmes, très indispensables, et que l'entretien en vienne à tomber sur les apparitions, les esprits, les intersignes, et qu'à la lumière des lampes soit basse, qu'il y ait des ombres derrière les meubles anciens, autour du salon où règne l'espace silencieux et invisible du logis et de la région propice, et voilà peu à peu que l'esprit du fantastique exerce sur certains, sur certaines, son inexplicable et passager empire. Des histoires, on en réclame. Et celles surtout qui sont arrivées, qui puissent être certifiées par le compteur, ne sont-elles, soient-elles même évasives, nébuleuses, équivoques, qu'importe. Pourvu qu'il y passe, semble-t-il, le souffle glacé de l'au-delà. Tels nous étions un soir du dernier hiver, lorsque Norbert du Vendre nous raconta une histoire de bibliothèque. Quatre femmes et quatre hommes, quatre ménages réunis chez l'un d'eux à la campagne, pour y fêter l'anniversaire du maître de la maison. Il était déjà fort tard, chacun avait vidé son sac d'anecdotes, de souvenirs personnels. On avait rappelé les faits les plus bizarres et même les œuvres les plus puissantes d'écrivains sur la peur, Hoffmann, Edgar Poe, Maupassant. Nous étions tous plus ou moins pris par la curieuse ivresse de leur élixir. La petite Madame Percieux, si jolie et si jeune, ne pouvait retenir les témoignages d'une rêveuse passion, fiévreuse, pour le surnaturel. Oh, elle n'était pas la seule. Au demeurant à dire « Encore, encore !» comme un enfant. Lorsque quelqu'un qui se taisait après avoir compté le sourire aux lèvres, quelque aventure inoubliable et troublante, j'avais convenablement rempli ma tâche de ce programme improvisé. Et ce n'était pas sans orgueil et sans agrément que j'avais vu pendant que je parlais, les regards furtifs glissaient vers les coins noirs et les fenêtres donnant sur la nuit. La petite Madame Perçue sursauta violemment, comme je venais d'achever le récit de la mort de Blomster. Parce que la porte s'ouvrit alors pour donner passage à un valet porteur d'un plateau. Quand nous eûmes fait honneur au cocktail, Norbert Virvandre fut vivement sollicité de reprendre la parole. Oh, celui qui, assurément, avait apporté la moindre contribution à cette soirée fantastique. Alors il ne se fit pas bien longtemps prier pour ajouter: Eh bien, soit, bien voici une histoire vraie. À ces mots, un silence s'établit, troublé seulement par le petit bruissement des femmes qui s'installaient, si je puis dire, avec gourmandise, et le petit gloussement sensuel de Madame Percieux, qui toutefois retarda le narrateur en murmurant: Oh, et quand je pense à toutes ces chambres vides de ce château et aux caves noires, si noires, oh, et la solitude du parc, bon! Des sourires plus ou moins rêveurs lui répondirent: Écoutons, monsieur Legendre, dit notre hôtesse. Et Norbert commença. Madame, fit-il en s'adressant à Madame Perçue, ce que vous venez de dire situe admirablement les faits que je vais vous raconter. C'est dans un château solitaire que je me trouvais la nuit où les faits se sont déroulés. Un grand parc l'entourait comme un parc nous entoure. Et, ma foi, la bibliothèque qui fut le décor de l'action était disposée à peu près comme l'est ce salon où nous sommes. Oui, vraiment, une fenêtre à chaque extrémité, une porte au milieu et une autre à l'autre bout. Seulement, celle-là, c'était une porte basse sur laquelle l'angle de la bibliothèque projetait une ombre. La bibliothèque garnissait entièrement les murailles. C'était une suite de hautes étagères montant jusqu'au plafond et supportées par des soubassements, le tout en bois noir et d'aspect fort sévère. J'avais 25 ans au sortir des chartes. J'attendais un poste d'archiviste. Provisoirement, j'avais accepté de séjourner en Sologne durant quelques semaines pour ranger et classer la bibliothèque que le comte de Provost possédait à la campagne dans un château qu'il habitait rarement. L'un de mes professeurs me procura cette aubaine. Je devais d'abord me rendre chez Monsieur de Prévost à Paris afin de recevoir ses instructions, puis je gagnerais le château. Mais Monsieur de Prévost venait de partir pour un long voyage en Extrême-Orient. Il avait laissé un billet pour me renseigner sur ma mission. Elle consisterait à remettre de l'ordre dans cette bibliothèque dont on avait fait usage depuis le XVIIe siècle, sans prendre soin de replacer les volumes comme il eût fallu. De plus, j'aurais à la grossir d'un certain nombre d'ouvrages que M. Le Fauveau avait hérité d'un oncle et qui, expédié de là-bas, se trouvait encore ici dans des caisses. Je devrais, enfin, classer tout cela en catalogue. Et le billet se terminait par cette phrase qui suivait comme un post-scriptum quelques mots aimables. « Ah, j'oubliais, monsieur, supprimez les fantômes. » Madame Percieux ne put s'empêcher de rire à demi frémissante, à demi incrédule. « Non, c'est arrivé, ça, vraiment ?»« Mais oui, répondit Norbert. Et je vous assure que la recommandation de monsieur de Prévost ne me causa nulle émotion, nulle surprise. Fantôme, c'est un terme familier à tout bibliothécaire. On désigne ainsi des apparences de livres, des trompe-l'œil qui figurent des dos de bouquins et qu'on dispose sur les rayons d'une bibliothèque pour y remplir provisoirement les espaces vides. Ce ne sont que des sortes de boîtes trompeuses. Je partis donc aussitôt et arrivai le lendemain à destination. Le château, perdu dans une vaste solitude de bois et d'étang, offrait un aspect sombre et mélancolique. J'y fus reçu par un couple extraordinaire, l'intendant du comte Prévost et sa femme. Deux vieillards blêmes, soupçonneux, et qui avaient l'air de vivre sous l'influence d'une terreur permanente. Avertis de mon arrivée, ils m'avaient préparé une chambre. Ils vivaient seuls toute l'année, là, et je ne puis dire d'eux que quelques mots balbutiés. Leurs faces anxieuses ne fit que me divertir et je pris bien vite mon parti de leur sauvagerie. Dès le premier jour, ils me servirent un dîner des plus convenables, mais qui fut prêt à 6 heures. Et l'on me fit comprendre que l'on tenait à se coucher quotidiennement de très bonne heure. En effet, lorsque je me levai de table, je n'aperçus qu'un silence profond régnait dans le château, qu'il n'y avait plus personne au rez-de-chaussée. Sans nul doute, mes deux phénomènes s'étaient retirés dans leur appartement, je ne savais où. Je n'avais guère sommeil et me décidai tout de suite à travailler. Pour ce faire, j'allumais une bonne lampe à pétrole que je portais dans la bibliothèque. À sa lumière, je passais la revue superficielle des livres que j'allais avoir à manier. Je ne pensais plus aux fantômes. Je ne remarquais pas ce soir-là leur présence. Je promenais la lampe au long des tablettes, jouissant d'une occupation qui m'était chère, et aussi du silence écrasant, absolu, qui m'entourait. Chemin faisant, je prenais des notes. Cela m'amena jusqu'à minuit. À ce moment, j'entendis des pas traînants dans les lointains du château, et finalement s'approcher de la porte du fond. Là, celle-ci, en sorte, quelque sorte. Et Norbert Dieudonné tendit la main vers cette porte qui, déjà tout à l'heure, avait fait tressaillir Madame de Percieux. Et il reprit, tandis que nos regards convergeaient vers la porte, Les pas continuèrent de s'approcher. Il y eut une espèce de frottement contre le bois. Je me demandais ce que signifiait cette visite nocturne. Enfin, la porte s'ouvrit lentement. C'était le vieil intendant. Il avait eu des remords et venait me demander si j'avais besoin de quelque chose. Ensuite, supplia Madame de Percieux, qui frissonnait. Ensuite, eh bien, le brave homme fut aux petits soins pour moi, jusqu'à l'achèvement de ma tâche. Cela dura 6 semaines, plus de 6 semaines. Et les fantômes? Oh, les fantômes! Dit Norbert d'un ton fort tranquille. Je les supprimais, comme le comte de Prévost m'en avait prié. Il se mit à rire. Vous vous êtes moqué de nous, disait gaiement notre hôtesse. Mais comment cela? Ne vous ai-je pas conté une histoire de fantôme? Et n'est-ce pas la mienne qui vous a le plus éprouvé, captivé? Voyez, Madame Gracieux surveille toujours la porte. Oh, je crois qu'il est temps de parler d'autre chose.